9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. À partir de mercredi prochain, 19 mai, tout va rouvrir progressivement. Mais que vont faire les consommateurs? Vont-ils retourner dans les salles de spectacle, se précipiter pour acheter des maillots de bain, prendre des billets d'avion? Mystère. Mon premier invité, l'historien Jean-Claude Domas, est l'auteur d'une histoire de la consommation en France du 19e au 21e siècle. On va voir avec lui à quoi on peut s'attendre. Je recevrai ensuite la philosophe Monique Cantos-Perber pour son nouveau livre « Sauver la liberté d'expression ». C'est vrai qu'elle est menacée de toutes parts et par des tendances totalement contraires. Et l'on terminera l'émission avec le journaliste Pierrick Jay qui consacre un ouvrage assez étonnant aux vacances de nos présidents de la République successifs. Vous allez voir comment ces vacances se sont réduites et sont devenues austères au fil du temps, et cela sous la pression des médias et des citoyens. Bonjour Jean-Claude Domas.
Bonjour.
Vous êtes historien spécialisé dans l'histoire économique, professeur émérite de l'Université de Franche-Comté. Vous êtes l'auteur chez Flammarion de La Révolution matérielle. C'est une histoire de la consommation en France du 19e au 21e siècle. Vous y parlez de consommation concrète, hein, ce qu'achètent les gens. Or, c'est justement la question qui se pose aujourd'hui. Tout va rouvrir progressivement à partir de mercredi. Les magasins, les restaurants, les bars, les cinémas, les théâtres, les cirques. Mais que vont faire les consommateurs? Au fond, d'après ce que j'ai pu lire dans votre livre, que pendant les deux guerres mondiales que l'on a connu une situation proche où la consommation a été fortement comprimée.
Oui, pendant les deux guerres mondiales, en raison de la mobilisation de toutes les ressources pour le front, il y a eu à l'arrière une pénurie et du rationnement. Et ce rationnement n'a pris fin qu'une fois les hostilités achevées. Et par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu attendre jusqu'en 1949 pour que l'économie ayant retrouvé un rythme normal de fonctionnement, le rationnement soit totalement supprimé. Alors évidemment, on n'est pas du tout dans une situation de ce genre, mais ce qu'on peut penser, c'est que et ce que l'on a vu après le premier déconfinement incite à aller dans ce sens également. On peut penser que progressivement, les gens vont retrouver les habitudes de consommation qui avaient été les leurs avant la crise sanitaire, et qu'il n'y aura pas de changement fondamental par rapport à cette période. Du reste, si on regarde ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, qui est encore bien loin d'être achevée, mais ça nous donne quand même des indications très fortes, alors que les sondages nous disent que les Français déclarent avoir ralenti leur consommation, en réalité, ils l'ont augmentée. Elle a progressé de plus de 8% au cours de l'année 2020. Mais en même temps, il y a eu un certain nombre de modifications dans cette consommation, mais des modifications qui sont le prolongement des tendances que l'on avait constatées antérieurement. Par exemple, le développement du digital, le progrès du bio, le consommer local, le faire soi-même. Ce ne sont pas des tendances nouvelles, ce sont des tendances qui ont été amplifiées, accélérées par la crise, mais qui existaient déjà auparavant et qui étaient déjà fortement ancrées.
Alors aujourd'hui, c'est quand même assez particulier parce qu'il y a un souci écologique qui n'existait pas autrefois, et notamment après les deux guerres mondiales dont nous venons de parler. Et ce souci écologique, ce discours nous répète que le réchauffement climatique pourrait être atténué si l'on prenait moins l'avion, si l'on ne se servait plus de sa voiture, si l'on fabriquait moins de vêtements et si l'on mangeait moins de viande. Dans votre livre, vous montrez qu'il y a eu déjà la critique de la société de consommation. Elle était portée par une partie de l'élite intellectuelle dans les années 70, mais elle était à l'époque en complet porte-à-faux par rapport aux attentes et aux comportements des consommateurs réels. Aujourd'hui, on peut se poser la question, non ?
C'est-à-dire que la critique de la consommation apparaît est contemporaine, en fait, de l'apparition de la consommation de masse. Elle apparaît dès le début des années 60, où on voit toute une série d'intellectuels que l'on pourrait qualifier d'austères dénoncer la consommation, alors même que la consommation de masse est bien loin d'être installée. Au début des années 60, la grande majorité des Français n'ont pas de salle de bain, n'ont pas de voiture, n'ont pas la télévision, n'ont pas les instruments électroménagers que nous connaissons tous aujourd'hui. Et pourtant, la dénonciation est féroce. Et Edgar Morin, par exemple, dénonce dans les consommateurs français des Bernard Lhermitte électroménagers et invite à repenser le bien-être. Alors même que l'immense majorité des Français sont encore bien loin de connaître le bien-être. Alors aujourd'hui, les mêmes critiques sont reprises, mais dans un contexte évidemment différent, vous l'avez rappelé, celui du réchauffement climatique. Et les Français en ont conscience. Et d'ailleurs, tous les sondages, bien qu'ils soient assez mouvants et souvent assez contradictoires dans les chiffres qu'ils donnent, mais... au moins, on a une chose qui est certaine, c'est que ils font tous apparaître qu'il y a une prise de conscience environnementale qui est forte et qui s'amplifie depuis quelques années. Mais en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un décalage très fort entre cette prise de conscience et les comportements réels. Je disais il y a un instant, la consommation a augmenté pendant le confinement, enfin pendant l'année 2020. Et alors on peut l'expliquer. On peut l'expliquer par le fait que les restrictions à la liberté de circulation, la fermeture des commerces non essentiels et des restaurants, l'arrêt des activités sportives et culturelles ont fait que la consommation un des derniers moyens de se faire plaisir dans un moment qui était particulièrement anxiogène. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est cette contradiction qu'il y a entre la prise de conscience des limites et des contradictions d'un mode de consommation et par ailleurs de ce que font les Français, parce que les mêmes sondages ou des sondages qui avaient été faits dans les années précédentes par un observatoire de la consommation qui s'appelle l'Obsoco montrent que les Français, tout en disant qu'il faut modifier ou réduire, enfin tout dépend un peu des gens, la consommation, disent en même temps que la consommation est la porte d'accès au bonheur. Il y a là une ambivalence dans les attitudes, et cette ambivalence, la crise sanitaire ne l'a pas réduite.
Jean-Claude Domas, on va faire une pause, on se retrouve juste après. On va voir ce qui risque d'advenir des petits commerces également. Hein.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Nous sommes toujours avec l'historien Jean-Claude Domas. En 1950, il y avait en France 800 000 petits commerces. Un pour 54 habitants, c'était énorme. Ce qui fait qu'on vendait peu, mais à un prix très élevé. La plupart de ces commerces ont disparu. Les consommateurs préférant les libres-services, puis les supermarchés, où les prix sont plus bas et le choix plus grand. Aujourd'hui, pendant toute la crise du Covid, on a pris l'habitude de commander sur Internet, de se faire livrer à domicile, y compris par les restaurants. On sait que les petits commerces peuvent disparaître. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, ils sont véritablement menacés ?
Alors, l'évolution est évidemment, et depuis de nombreuses années, à la diminution de la place du petit commerce indépendant. Parce qu'à côté, on a vu se développer des magasins dits de proximité, qui sont des supérettes dépendant des grandes chaînes, des grandes enseignes de distribution, et qui jouent le même rôle que jouait auparavant ce petit commerce indépendant. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant l'année 2020, on a vu une sorte de regain de faveur de ce petit commerce qui a bénéficié de la crise. Et son chiffre d'affaires aurait augmenté de près de 30%. Alors, ça résulte d'une double évolution. D'un côté, les commerçants ont fait un gros effort pour répondre à la demande. Alors, ils ont créé des sites de vente en ligne, développé les livraisons, adapté leurs offres, se sont adressés aux fournisseurs locaux. Et de l'autre côté, chez les consommateurs, trois arguments ont joué, incontestablement. D'une part, la possibilité de faire ses courses dans un commerce de proximité. Par ailleurs, l'envie de soutenir le petit commerce. Et enfin, la conscience environnementale. Et tout cela explique, à mon sens, le fait que le petit commerce, finalement, se soit plutôt bien tiré de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre. La question qui se pose, c'est de savoir si ces tendances vont perdurer. Parce qu'en même temps, le développement du commerce en ligne, avec les drives, les livraisons, évidemment, ce mode d'achat réduit l'espace de développement du petit commerce. Et ce qui explique d'ailleurs que les centres-villes se désertifient et que on arrive aujourd'hui à l'échelle nationale à un taux de vacance des commerces urbains de 10%, ce qui est absolument énorme. Et dans les villes moyennes en particulier, ça peut atteindre des proportions bien plus élevées, de l'ordre de 25 ou 30% dans les villes où l'environnement économique est le plus dégradé. Donc on a là une véritable incertitude. Et je dois dire que pour ma part, je ne saurais pas dire ce qui va l'emporter. Est-ce que le petit commerce va réussir une sorte de retour? Ou est-ce qu'au contraire, les tendances antérieures qui le pénalisaient lourdement vont l'emporter à nouveau? Je n'en sais rien. Et il n'y a que, on pourra le dire d'ici 3, 4 ou 5 ans, parce que là, on aura du recul. Pour le moment, on est le nez sur l'évolution et je crois qu'on ne peut pas en dire beaucoup plus.
Pendant les 30 Glorieuses, les dépenses de transport ont doublé à peu près. Hein. Posséder une voiture est devenu la norme. On a sacrifié d'ailleurs à la voiture, dans l'espace urbain notamment, les transports collectifs et la bicyclette. C'était tout pour la voiture. Aujourd'hui, c'est la tendance inverse. Et l'épidémie de Covid a joué son rôle. On peut se demander même si l'automobile s'en relèvera de l'épidémie de Covid.
La voiture a mauvaise presse, hein, c'est le moins qu'on puisse dire depuis quelques années. Mais en même temps, elle remplit une fonction absolument réelle. Et pour l'instant, que rien ne saurait remplacer. Si les habitants des grandes agglomérations, et en particulier de la capitale, peuvent se passer de la voiture parce que ils bénéficient d'un réseau de transport commun remarquable, ce n'est pas le cas en province. Et dès que les gens habitent dans le périurbain, voire au-delà, ils sont obligés de recourir à la voiture. Et c'est le cas de 70% des Français. Donc pour cela, je pense que la crise n'a rien changé et ne changera absolument rien. Parce que vous ne faites pas 30 km à vélo le matin pour aller à votre travail. C'est impossible et donc la voiture joue ce rôle. En revanche, dans les villes, et c'est là qu'on a vu fleurir la trottinette, la bicyclette électrique, etc. C'est évidemment une tendance lourde et elle continuera à s'amplifier. D'autant que dans les très grandes agglomérations comme Paris, par exemple, on prend des mesures pour limiter l'emprise de la voiture.
On regarde aujourd'hui les films sur sa télé, sur son home cinéma, sur son ordinateur, sur son téléphone, et on l'a fait beaucoup pendant toute cette période. Les salles de cinéma rouvrent à partir de mercredi, mais aussi elles pourraient bien disparaître, comme ont disparu les cafés-concerts, qui étaient un loisir très populaire au début du XXe siècle, hein, et qui a été remplacé par la radio, puis par les tourne-disques. Est-ce que vous imaginez un monde sans salles de cinéma ?
Ah, c'est un monde qu'on peut imaginer. Il y a des pays en Europe où il n'y a pratiquement plus de salles. C'est pas le cas de la France. Et j'entendais ce matin des reportages où on interrogeait des habitants, enfin des Français anonymes, qui disaient qu'ils brûlaient d'envie de retourner dans les salles obscures. Parce qu'en réalité, c'est exactement comme le commerce. On pourrait imaginer un commerce qui serait entièrement dématérialisé, où il n'y aurait plus que des plateformes. Théoriquement, c'est possible. Dans la réalité, ça ne se fait pas, et ça ne se fera pas pour une raison simple, c'est que le commerce remplit aussi une fonction de sociabilité. Et dans le cinéma, on a affaire à quelque chose d'analogue, c'est-à-dire qu'il y a une expérience qui n'est pas la même que celle que l'on a quand on est assis dans son canapé à regarder un écran à la maison. Il y a un effet de sortie, on rencontre des gens, la salle obscure, c'est pas le salon, et tout ça change beaucoup l'expérience que l'on a, et je crois beaucoup que finalement le cinéma se maintiendra et Alors, est-ce qu'il y aura besoin d'adaptation? Je n'en sais rien. Je répète que je suis historien et que je ne suis pas en mesure de prévoir l'avenir. Mais ce qu'on peut faire, c'est regarder ce qui s'est passé dans un passé récent et dans quel sens se font les adaptations. L'ouverture plus large des salles, par exemple, peut être une solution. La multiplication de ces grands complexes où il y a 10, 15, 20 salles, mais plutôt des salles dispersées pour éviter les grands déplacements, ça peut être des solutions. Hein, je ne vois pas le cinéma disparaître au vu de l'expérience des dernières années.
Merci Jean-Claude Demas d'avoir été en direct avec nous ce matin. La révolution matérielle, une histoire de la consommation en France du 19e au 21e siècle, c'est paru chez Flammarion. Et les révolutions du commerce en France du 18e au 21e siècle, vous l'avez publié aux presses universitaires de Franche-Comté. On se retrouve dans un instant avec la philosophe Monique Cantos-Perber.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadié.
Bonjour Monique Cantos-Perber.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous publiez « Sauver la liberté d'expression » chez Albin Michel. Elle est en effet menacée, d'après ce que vous nous dites, par deux tendances contraires. D'un côté, la multiplication des propos qui se veulent affranchis de tout tabou et qui sont souvent à la limite du racisme. Et de l'autre, la prolifération des formes nouvelles de censure émanant de gens qui veulent imposer leurs lois à la parole publique. C'est vrai que c'est très particulier aujourd'hui, hein.
Oui, la période actuelle concentre d'une certaine manière toutes les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. D'abord, les menaces qui, comme vous l'avez rappelé, ont trait à un abus de cette liberté d'expression. On se réclame de la bonne, de la noble tradition de la liberté de parler pour défendre des propos qui devraient normalement être pénalisés par la loi. Et puis, d'un autre côté, on estime définir le juste usage de la liberté d'expression en imposant la parole et en imposant la parole publique ses propres idées. Alors les idées en question, ce sont, il ne faut pas se voiler la face, ce qu'on appelle les valeurs progressistes, hein, c'est-à-dire égalité contre les sexes, l'égalité entre les sexes, lutte contre le racisme. Et ces valeurs, il est difficile d'être en désaccord avec elles, ça va de soi. En revanche, ce qui veut être imposé par des groupes militants très marqués générationnellement, c'est une interprétation très unilatérale, très dogmatique de ces valeurs et qui ne sont pas la manière dont beaucoup d'autres personnes leur donnent un sens et les interprètent.
Et puis, il y a un troisième acteur, on pourrait dire, c'est l'État, ou en tout cas la puissance publique. Depuis l'attentat contre Charlie Hebdo, l'État brandit la liberté d'expression telle une bannière, on va dire, comme si elle était en France indiscutable et indiscutée. Est-ce que c'est véritablement le cas ? Est-ce que l'État est l'ami de la liberté d'expression ?
Alors l'État, bon, disons la puissance publique en général, hein, ce sont plusieurs choses. D'abord la justice. La justice est censée être l'ami de la liberté d'expression puisqu'elle a pour mission constamment de punir les excès de la liberté d'expression, mais de manière à conforter, à renforcer la liberté d'expression. C'est ça le paradoxe, cet équilibre qu'il faut sans cesse atteindre entre les atteintes qui pourraient être apparentes à la liberté d'expression et puis la volonté de débarrasser la parole publique de propos complètement délictueux. Mais à côté de la justice, bon, la règle de justice est claire, l'application est parfois difficile et délicate.
Elle est sujette à interprétation.
Et la Cour de cassation prononce régulièrement des grandes orientations qui amènent les juges à être pendant une période plus soucieux de la littéralité de l'expression et pendant une autre période, au contraire, à prendre en compte les intentions, le contexte plus global. Donc, ce qui peut donner des désaccords et ce que certains perçoivent comme des incohérences de verdict. Mais à côté de la justice, il reste la puissance publique, c'est-à-dire bon, tous ceux qui peuvent s'exprimer au nom du gouvernement. Et là, en effet, il est difficile de ne pas remarquer un jeu un peu pervers entre une revendication forte de la liberté d'expression. On l'a vu après la tragique mise à mort de Samuel Paty. Pourquoi ? Pour une raison bien naturelle, parce que la liberté d'expression est véritablement la plus républicaine des lois. Et comme c'est une tradition de ceux qui nous gouvernent de se réclamer sans cesse de l'idéal républicain, et il va de soi qu'il est hors de question de ne pas mettre en avant cette valeur. D'un autre côté, on observe que parfois des ministres sont véritablement à la traîne de la pression des réseaux sociaux, donc de ces nouveaux organes de censure. J'en citerai un seul exemple. Vous vous rappelez sans doute l'affaire Mila il y a un peu plus d'un an, cette jeune fille qui, de manière totalement inconsidérée, mais enfin bon, ça c'est mon appréciation personnelle, publie des propos tout à fait injurieux à l'égard de l'islam, mais qui en aucun, mais qui sont adressés à la religion ou au Dieu des musulmans, c'est-à-dire comme une entité abstraite qui existe et qui a une valeur incommensurable pour certains, mais qui n'en a aucune pour d'autres. Donc,
on a le droit en France de s'en prendre à une religion, prendre aux croyants.
Exactement, la loi ne punit pas le blasphème comme atteinte à la religion et éventuellement à ceux qui portent le message divin, prophète, etc. Mila publie ce post et le ministre de la Justice réagit en disant c'est une atteinte directe à la liberté de conscience des individus. Alors, c'est un peu inquiétant que le ministre de la Justice ne semble pas posséder pleinement intellectuellement la distinction que vous venez de rappeler, à la suite de quoi le parquet ouvre une enquête. Alors ensuite, un certain nombre de juristes sont immédiatement intervenus et ont rappelé le texte de la loi. Et la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a reculé, et le parquet a d'une certaine façon reculé aussi, en disant « mais c'était simplement une enquête pour établir que ce n'était pas un délit de blasphème ». Je crois que l'intention initiale n'était pas tout à fait celle-là. Donc on le voit, d'un côté, l'État défend les valeurs républicaines, parce que ça l'enracine dans son image d'impartialité, c'est toujours extrêmement positif comme façon de qualifier l'action étatique, mais d'un autre côté, l'État, d'une certaine manière, a sa propre politique d'image et c'est aujourd'hui extrêmement valorisé de se faire bien voir par les groupes de pression très actifs dans l'opinion.
Ou de se dire ennemi des fake news, de vouloir les combattre, mais est-ce que c'est à l'État de nous dire ce qu'est une vraie et une fausse information ? Là aussi, c'est tout un problème.
C'est une question très délicate parce qu'on tente à considérer que le débat public, la possibilité d'échanger des points de vue, d'échanger des informations sans distorsion, en quelque sorte, est une forme de bien public. Dire il n'y a pas d'exercice correct de la citoyenneté, surtout dans un monde si complexe que le nôtre, s'il n'y a pas la possibilité d'avoir accès à une information non faussée. Alors vous pouvez me dire, mais qu'est-ce qu'une information vraie ? Ça, c'est un vaste débat philosophique, mais tout de même, quand même. L'information vraie est celle qui, disons, recueille le moins d'objections ou de mises en cause. En revanche, il y a des informations complètement folles, erronées, et qui doivent être, dans la mesure du possible, éliminées du débat. Alors, il est certain que l'État se sent engagé là-dedans. Simplement, il y a aussi une règle, c'est que dans un débat public non faussé, lorsque toutes les informations, les opinions sont en circulation, il y a quand même une sorte d'élimination naturelle, c'est-à-dire ce qui est faux est majoritairement réfuté. Et très vite, la vérité, chacun peut avoir accès à la vérité. Il ne faut pas ignorer aussi cette dimension fondamentale du débat. Le problème, c'est lorsque le débat est faussé, c'est-à-dire qu'il y a une opinion dominante qui martèle un point de vue, c'est le cas de la propagande, soutenue par un pouvoir d'État qui répète « ceux-là sont indésirables, ceux-là jouent un rôle nocif dans la société » et il n'y a plus de possibilité d'accéder à une quelconque information sur la question. Donc l'État doit maintenir le caractère impartial du débat. Maintenant, est-ce que l'État doit aller jusqu'à dire « ça c'est l'information vraie, ça c'est l'information fausse » Il doit simplement s'assurer que tous les organes compétents sont activés pour faire ce job-là, si je puis dire, de permettre aux citoyens de discerner le vrai du faux.
Monique Kantos-Perber, est-ce que vous voyez une solution à cet imbroglio qui concerne la liberté d'expression aujourd'hui ?
Il n'y a pas de solution unique et massive, il y a une convergence de solutions. D'abord, le rôle de la justice, que la justice reste une justice des lois de la presse et des lois de l'expression, c'est-à-dire tout à fait rattachée aux lois de 1881 et non pas ramenée dans le monde public, dans le droit pénal, pardon, mais avec des moyens beaucoup plus importants qui permettent à la justice de rendre des décisions plus rapides que celles que ce n'est le cas actuellement. Ensuite, une véritable réflexion sur la régulation des réseaux sociaux, puisque l'autorégulation semble ne pas avoir donné les résultats qu'on espérait, passer à une obligation de résultat, c'est-à-dire à faire en sorte que les réseaux sociaux prennent l'initiative de supprimer tous les contenus délictueux, serait très dommageable pour la liberté d'expression, parce que ces réseaux se doteraient d'algorithmes parapluies qui élimineraient énormément d'opinions au-delà de celles qui pourraient être délictueuses. Donc réfléchir vraiment à fond à cette question-là de la régulation, deuxième point. Troisième point, éviter les tentations du genre censure préventive ou censure des pures opinions, enfin de simplement l'expression des convictions, et puis tout un ensemble de moyens au fond qui tournent autour de la nécessité de la résistance. On a affaire à un rapport de force de deux groupes qui veulent l'un et l'autre imposer une hégémonie sur la parole publique. Et ceux qui ne sont pas d'accord doivent absolument résister, quels que soient les risques encourus, en particulier des risques d'image. Parce qu'aujourd'hui, certains groupes activistes ont véritablement le vent en poupe et c'est s'exposer et c'est courir des risques incontestablement que de dire non, j'ai analysé le mal que faisaient ces propos, à mon avis, ils n'en font aucun, donc je les maintiendrai. De s'opposer à la pression pour interdire un spectacle, pour censurer une exposition. Tout cela exige un certain engagement personnel, mais je crois qu'il est aujourd'hui nécessaire, parce que sinon, nous risquons d'être ramenés à un monde où on ne pourra être d'accord qu'avec soi-même, ce qui n'est pas très favorable au progrès de l'intelligence humaine.
Merci Monique Cantos-Perber. Sauver la liberté d'expression, ça vient de paraître chez Albin Michel. On va dans un instant rentrer dans l'intimité de nos présidents en vacances avec Pierrick Jay, juste après ça.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Pierrick Jay.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à Vanity Fair et vous publiez L'Élysée à la plage. C'est sous-titré Dans l'intimité de nos présidents en vacances. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Et je dois dire que la lecture est assez piquante. C'est piquant de constater à quel point les vacances de nos présidents ont changé en fonction, au fond, des époques, mais surtout des exigences, au fond, des journalistes et de la population française, des citoyens.
Voilà, c'est ça qui traverse finalement les vacances des présidents de la Ve République. C'est la vision des Français sur ces vacances et la vision des médias sur ces vacances. Petit à petit, finalement, les présidents ont ouvert l'intimité de leurs vacances, la porte de leurs vacances, depuis Georges Pompidou, après Valéry Giscard d'Estaing a vraiment médiatisé ses vacances. Et puis finalement, les présidents se sont fait prendre à leur propre jeu de la médiatisation des vacances. Et c'est ça qui est intéressant dans ce moment. On pourrait croire que c'est un moment de la vie privée du président et on se rend compte que c'est un moment plus public que jamais. Le président, pendant ses vacances, reste un personnage public et il doit communiquer autour de ses vacances.
Au fond, on va passer de Georges Pompidou qui prenait carrément 2 mois de vacances pendant l'été, à Valéry Giscard d'Estaing qui chassait les animaux sauvages en Afrique, à Jacques Chirac qui passait 3 semaines à l'étranger dans un palace. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est devenu des jansénistes, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de morale austère qui condamne nos présidents à passer les rares jours de vacances qu'il leur reste au fort de Brégançon, c'est-à-dire une forteresse sinistre avec des toutes petites fenêtres.
Ouais, complètement, et puis Emmanuel Macron, il faut dire qu'en fait, il change de lieu, si je puis dire, il passe de l'Élysée à Brégançon, mais ses journées ne changent pas vraiment, il travaille de très tôt le matin à très tard le soir, il s'autorise une petite baignade avec Brigitte Macron et ses petits-enfants, mais c'est tout. Georges Pompidou, des décennies plus tôt, il changeait 3 fois de lieu de vacances, la Bretagne, Cajar, Brégançon. Et puis, il prenait le temps de recevoir plein d'amis, de faire des visites, de se baigner. Il signait 2-3 dossiers, mais c'est tout.
Grâce à votre livre, j'ai appris qu'avant le fort de Brégançon, il y avait eu le château de Vizy en Isère, qui est toujours un château de contes de fées, un château du XVIIe siècle, jouissant d'un parc de 100 hectares. Et c'était la résidence d'été des présidents de la République. Alors, ça a été celle de Gaston Doumergue et d'Albert Lebrun avant la guerre, puis de Vincent Auriol et René Coty. Là, c'était vraiment fastueux. Hein.
Ah oui, c'est vraiment, comme vous dites, un château de contes de fées. C'est merveilleux, avec un parc immense, des tours, Madame Lebrun, là. La femme du président Albert Lebrun disait il nous faut un ascenseur pour gravir toutes ces marches, tellement il y a des marches, des pièces partout. C'était vraiment très fastueux. Et puis, donc, les présidents de la 3e et de la 4e République aimaient beaucoup ce château. Le général de Gaulle ne l'aimait pas. Il a préféré faire de Brégançon le lieu de villégiature de la 5e République.
Pas non plus.
Et il ne l'aimait pas non plus. Il y a passé une nuit affreuse où il s'est fait dévorer par les moustiques. Il a dormi dans un lit beaucoup trop trop petit. Lui, il n'aimait que la Boisserie, sa résidence privée de Colombelles et Deux-Églises. Et c'est surtout Yvonne de Gaulle qui n'aimait pas Brégançon, qui n'aimait pas l'Élysée d'ailleurs non plus. Elle ne voulait résider en vacances qu'à la Boisserie.
Jacques Chirac, par exemple, il va passer un été à Brégançon, épié par les journalistes dès son élection. Il y a la fameuse photo où il apparaît en Bermuda, chaussettes noires et chaussures de ville, sans doute pour vous, il voulait faire populaire. Il y a les photos jamais vues où il est apparu complètement nu. Il a été pris en photo complètement nu à Brégançon, alors qu'il épiait le yacht du champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher. Tout ça, on le montre. Ce qu'on ne montre pas, en revanche, à l'époque, ce sont ses vacances au Royal Palm à l'île Maurice. Il va falloir attendre l'été, je crois que c'est l'été 2001, où tout à coup, il a passé 3 semaines là-bas et tout à coup, on en parle dans le journal, mais presque par accident.
Voilà, Paris Match avait voulu faire un reportage avant les vacances du président Chirac pour montrer un peu ce lieu où il avait ses habitudes, hein, déjà. Enfin, donc, ils avaient fait un reportage, ils avaient interrogé le personnel du Royal Palm à l'île Maurice. Et Jacques Chirac n'avait pas supporté qu'on affiche finalement ses vacances de milliardaire, parce que c'était un peu des vacances de milliardaire dans une grande suite, il y avait beaucoup de luxe. C'était le Royal Palm, tout le monde y défile, toutes les stars du cinéma, les têtes couronnées. Et donc, il n'avait pas accepté parce qu'il voulait complètement gérer sa communication des vacances. Et là, ça lui échappait. Et on verra justement qu'avec Nicolas Sarkozy, par exemple, cette communication des vacances, ça lui a complètement échappé aussi.
Mais c'est pendant l'été de la canicule en 2003 qu'au fond, on se rend compte qu'il y a un problème. Jacques Chirac, à ce moment-là, est aux abonnés absents. Il était parti, soi-disant, au Québec et puis on ne l'a plus revu. On ne sait pas où il était. Il y a tout le gouvernement, au fond, est en vacances. Le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, à l'époque. Et c'est seulement le 11 août que le ministre de la Santé, en polo, répond à une interview qu'on lui reprochera par la suite, mais Jacques Chirac, lui, était introuvable. Il ne reviendra que le 21 août, très bronzé.
Oui, et on a surtout reproché à Jean-Pierre Raffarin et à Mattei, le ministre de la Santé, cette canicule, cette vague caniculaire mal gérée, cette crise sanitaire. Et à Jacques Chirac, on ne lui a pas reproché tant que ça. Vous dites, maintenant, ça serait vraiment un vrai scandale pour le président. Parce qu'il était complètement introuvable. Il était parti donc au Québec, dans un tout petit village du Québec. Et puis, les premiers jours, il était très scruté par la presse québécoise, mais aussi la presse française. Il allait... vraiment, c'était vraiment pas des vacances passionnantes. Hein. Bernadette Chirac allait chez le coiffeur, le petit chien s'était fait mordre. Voilà, c'était vraiment pas passionnant. Et puis du jour au lendemain, il avait disparu. Et on s'est demandé où il était passé. On a même cru qu'il était parti aux États-Unis pour se faire, oui, une opération chirurgicale. Ou peut-être qu'il s'était envolé sur une petite île, comme il aimait bien. Il aimait bien quand même les tropiques, hein, Jacques Chirac. Et il est revenu tout bronzé. Les journalistes ont essayé de voir s'il n'avait pas des petites traces de chirurgie esthétique, quelque chose comme ça. Rien. Et c'est vite redescendu, finalement. Finalement, ce scandale autour de Jacques Chirac. Vous imaginez maintenant si un président partait au Canada en pleine crise sanitaire, en plus en ce moment c'est un peu le cas, ça serait un vrai scandale. Emmanuel Macron, pour son premier été, il n'est pas allé au Fort de Brégançon, il est allé à Marseille et il y avait eu la rumeur quelques mois plus tôt qu'il allait aller en Italie. Et déjà, il y avait eu un petit scandale dans la presse, on avait dit, une petite polémique, on avait dit non, le président français ne peut pas aller en Italie, il doit rester en France.
Oui, c'est une loi nouvelle hein, qui date de Nicolas Sarkozy au fond, comme vous allez nous le raconter dans un instant.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec Pierrick Jay qui publie L'Élysée à la plage aux éditions du Rocher. Alors oui, Nicolas Sarkozy, son premier été, il le passe à Wolfboro en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, donc dans une villa très très chère. Et on se demande tout de suite qui a payé. On lui reproche son jogging qu'il effectue avec un t-shirt New York Police Department. Et là, tout à coup, se pose pour la première fois la question, est-ce que le président de la République française a le droit de passer ses vacances à l'étranger? Et la réponse est non.
Oui, je pense qu'il y a vraiment un tournant Wolfboro, en fait. C'est vraiment certainement les vacances les plus rocambolesques d'un président. Il se passe tellement de choses et en même temps, il ne se passe rien parce qu'il fait un peu de footing, un peu de shopping et rien d'autre pendant ses vacances. Mais au niveau de la médiatisation de ses vacances, il y a quelque chose vraiment qui se passe. Parce que Nicolas Sarkozy a décidé dans les premiers jours de se mettre en scène et puis il a donné une conférence de presse au bout de 3 jours de vacances et il a dit maintenant aux journalistes français, repartez à Paris, je ne vous donnerai plus rien. Et les journalistes américains qui aussi suivaient les vacances du président parce qu'il était aux États-Unis, c'est pas du tout dans leur culture, ça. Ils font ce qu'ils veulent, finalement. Un président n'a pas à choisir quand il est médiatisé ou non. Et donc, les deux journalistes américains le prennent en photo sur un canoë-kayak avec Cécilia Attias, quelques amis milliardaires et aussi Rachida Dati. Et ça, c'était un peu un secret que Rachida Dati passe ses vacances avec Cécilia Sarkozy et Nicolas Sarkozy. Et donc aussi, pendant ses vacances, il y a quelque chose de particulier, Nicolas Sarkozy a dû revenir en France pour un enterrement.
Celui du cardinal Lustiger.
Voilà, tout à fait. Et donc, il y a eu cet aller-retour assez incroyable. En une journée, il a fait l'aller-retour pour les États-Unis. Et il y a aussi le fiasco du barbecue chez les Bush pendant ses vacances. Nicolas Sarkozy est invité avec son épouse chez les Bush père par Bush fils, qui est alors président, pour un barbecue avec hamburger, Coca-Cola, voilà, le vrai barbecue américain. Et il vient sans Cécilia Sarkozy, qui était pourtant invitée par la première dame, Madame Bush. Et alors là, c'est un petit scandale quand même aux États-Unis, parce que la première dame française n'a pas répondu à l'invitation de la première dame américaine. Et surtout qu'au même moment, Nicolas Sarkozy s'est excusé en disant que Cécilia avait une angine blanche. Alors qu'au même moment, elle était photographiée en train de lézarder sur la plage en petite tenue. Et donc, il y a vraiment, genre, c'est un été complètement rocambolesque qui a vraiment bouleversé, je pense, les vacances des présidents.
Et puis, il y a aussi le fait qu'on se demandait qui avait payé la villa, parce qu'il était avec des amis de sa femme, sans doute très riche. Et là aussi, ça commence à être mal vu. Georges Pompidou pouvait passer l'été en Bretagne chez les Bettencourt, par exemple. Ça ne choquait personne. Valéry Giscard d'Estaing passe son premier été chez des amis très riches, aussi dans une très belle propriété. Il reçoit les journalistes, ça ne pose pas de problème. Là, ça va commencer à poser des problèmes. On n'a plus le droit d'aller chez des amis riches, si bien qu'au fond, on n'a plus le droit de rien. Sous François Hollande, on s'en aperçoit. Il n'ose pas aller chez lui parce que c'est à Mougins, c'est un peu trop chic. Et finalement, il va à Brégançon parce qu'il n'a plus le choix déjà.
François Hollande, en effet, lui, il prendra même plus de vacances du tout. Il prendra 4 jours, 5 jours de vacances. Parfois, il restera à la Lanterne, donc la résidence versaillaise où souvent les présidents vont passer des week-ends plutôt. Lui, François Hollande, ira y passer ses vacances. Et puis quelques vacances dans le Var quand même, mais pas à Brégançon, parce qu'il aura ouvert en fait Brégançon au public, donc il n'y mettra plus jamais les pieds.
Et puis il y a une affaire aussi que vous racontez, que j'avais oubliée, c'est l'affaire des coussins.
On a accusé Valérie Trierweiler d'être en fait une nouvelle Marie-Antoinette, finalement, qui redécorait à grands frais le fort de Brégançon, alors qu'avant elle, Claude Pompidou, Anémone Giscard d'Estaing et Bernadette Chirac, elles, avaient vraiment redécoré de la cave au grenier Brégançon. Et alors, ces coussins, c'est assez mystérieux finalement, parce que Valérie Trierweiler elle-même dit qu'il n'y a pas eu de coussins. Elle a juste acheté 2 paravents. Et François Hollande, lui, dans son autobiographie qu'il a sortie après son mandat, il parle bien de ces coussins, mais il dit que ces coussins n'étaient pas brodés au fil d'or. Hein. Il ne comprend pas pourquoi il y a eu ce scandale autour de ces coussins. Ce scandale, il vient finalement de la droite qui voulait un peu avoir leur revanche du Fouquet. Vous vous souvenez, le Fouquet de la soirée d'élection de Nicolas Sarkozy, tout le monde avait critiqué cette soirée. Et finalement, il trouvait enfin le petit scandale de ce président, le président Hollande, qui se disait président normal et qui voulait justement passer des premières vacances un peu normales, comme Angela Merkel de son côté, qui en Allemagne, elle arrive toujours à passer des vacances normales, elle fait des petites randonnées, elle réside toujours dans le même hôtel. Il s'est rendu compte, François Hollande, que c'était compliqué en France d'être un président normal en vacances.
En effet, donc les présidents n'ont plus le droit de prendre que quelques jours de vacances. Il faut absolument les prendre dans une résidence officielle, soit à Brégançon, soit à la Lanterne. Surtout pas à l'étranger. Tout ça, c'est bien fini. Les vacances de nos présidents ont bien changé. C'est ce que l'on découvre en lisant votre livre, Pierrick Jay. Ça s'intitule « L'Élysée à la plage » et ses sous-titres dans l'intimité de nos présidents en vacances. Ça vient de paraître aux éditions du Rocher. Merci encore d'être venu sur Europe 1 pour en parler.
Europe 1.
C'est arrivé demain et terminé. On se retrouve samedi prochain. Après le flash, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté cette semaine par Aurélie Herbemont, qui est, je sais qui est votre invité, c'est Clément Beaune.
Clément Beaune, oui, effectivement, le secrétaire d'État chargé des affaires européennes. Alors, on va parler du conflit au Proche-Orient, du pass sanitaire, de la relance de la présidence française de l'Union européenne, qui sera concomitante à la campagne présidentielle à partir de janvier 2022. Et puis bien sûr du jeu dangereux de La République en marche pour les régionales.
Merci Aurélie, bonne émission.
Merci.